Nous arrivons enfin à l'étape de Shulchan Orer. Et je dis bien enfin parce que généralement pendant le Seder, un certain nombre de personnes sont impatientes d'arriver à l'étape du repas. Et malgré l'absorption des kazetim de matzah, de maror, malgré le korer, on attend peut-être des mets qui soient plus à notre goût. Et donc cette étape de Shulchan Orer est l'occasion de se poser des questions sur la manière dont nous devons manger et sur le sens de la table. On remarque d'ailleurs que nos sages, que l'auteur de la Haggadah a appelé cette étape Shulchan Orer, qui signifie mot à mot table dans l'ordre. Table dressée, la Aror Shulchan, ça veut dire dresser une table, ça veut dire mettre en ordre une table, et on ne comprend pas très bien le sens de cette étape. Tout d'abord, est-ce que le repas aurait dû faire véritablement l'objet d'une étape du Seder? N'est-ce pas plutôt une parenthèse pendant la nuit du Seder, où on se nourrit parce qu'il faut se nourrir, mais on n'accomplit rien de particulier par rapport, on va dire, au rite, entre guillemets, de Pessah? Ou est-ce qu'il s'agit véritablement d'une part entière du Seder de Pessah? Le Chatam Sofer rapporte un enseignement qui est bien connu et qui est tiré du Passouk de Yechezkel au chapitre 41, « Zeh ha-shulchan asher lifnei Hashem »« Ceci est la table qui est devant Dieu ». On apprend de ce verset que la table de l'homme est considérée comme un misbéar, comme un autel. Et nous dit le Chatam Sofer, « Si la table de l'homme est comme un misbéar, cela signifie que sa maison entière est considérée comme un migdash, comme un sanctuaire. » Et il rapporte ça au pasouk de Shemot, « Ze Eli ve'anvehu » Donc, mot à mot, ceci est mon Dieu, ve'anvehu. Et dans le mot ve'anvehu, ça veut dire mot à mot, je l'embellirai. Mais cela fait penser également au mot neve, qui signifie une résidence. Or, les mots ze eli sont le notaricon, c'est-à-dire l'acrostiche, de la phrase ze hashulchan asher lifne Hashem. Si vous prenez les premières lettres de chacun de ces mots, ze hashulchan asher lifne Hashem, cela donne ze eli. Alors, nous dit le Chatam Sofer, si véritablement la table et placer l'ifne Hashem, ve'anvehu. Alors ça veut dire que je fais de ma maison une résidence pour la Shekhina. Il y a une autre explication qui est tirée du même pasouk et qui est rapportée par le Admour de Alexander au nom du Avodat Israël, c'est-à-dire du Maggid de Kosnitz. Il nous dit que, bien évidemment, comme on l'a vu, la table de l'homme est considérée comme son misbéar, c'est-à-dire que le repas qui est consommé à table est considéré véritablement comme un korban. Mais quand est-il considéré comme un korban? Lorsque la table est lifné Hashem, c'est-à-dire que l'on mange en pleine conscience d'être devant Akadosh Baruch Hu et de manger pour accomplir les mitzvot, d'accomplir tous les commandements de la Torah, comme l'enseigne le Rambam, qu'on doit manger pour avoir un corps sain et pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, et également peut-être dans des intentions spirituelles d'élévation de la nourriture, comme on l'apprend dans la Chassidoute. Si au contraire, Chas Veshalom, on ne mange pas dans cette intention-là, alors on ne fait que renforcer la matérialité qui est en nous, on ne fait que renforcer les appétits, les désirs, et donc cela s'appelle donner de la force à la Sitrahra, c'est-à-dire au côté obscur, au côté donc du mal. Comment cela se matérialise-t-il dans le pasouk? Le pasouk nous dit « Zeh ha-shulchan asher lifne Hashem ». Ça veut dire que tant qu'on est lifne Hashem, ça s'appelle « ha-shulchan ». Mais si on n'est pas lifne Hashem, alors on renverse les lettres du mot « shulchan » et ça donne la « nachash », mot à mot pour le serpent. On sait que le « nachash », le serpent, le « nachash akadmoni » comme on l'appelle, le serpent originel, c'est le symbole du mal, c'est l'incarnation du Satan. C'est-à-dire que si notre table n'est pas donc dirigée l'ifne Hashem, on est en train, chas v'shalom, de faire zifremetim, c'est-à-dire d'offrir des offrandes à la avodazara, cette avodazara étant nos appétits, notre corps, notre profit, etc. Et donc à partir de cet enseignement de l'Admour d'Alexander, on comprend beaucoup mieux le sens de l'étape Shulchan Orer. Ce que nous dit le Baal Haggadah ici, c'est qu'il faut que notre Shulchan soit en ordre, que les lettres du mot Shulchan soient en ordre, et donc que nous mangions le soir de Pessah, dans la Kdusha de la fête, de manière à véritablement faire un misbéar pour Hachem, et que notre repas soit un korban pour Hachem, et que notre maison soit le lieu de résidence de la Shekhina. Le Khatam Sofer continue en nous disant que le fils Racha, celui des quatre fils qu'on appelle le Racha, n'en peut plus du récit de la Haggadah. C'est pour ça qu'il demande « Ma avoda azot lachem », c'est quoi tout ce bazar, c'est quoi toute cette avoda que vous faites, c'est quoi tout ce culte, tout ce travail que vous accomplissez ce soir. Moi, ce que je veux, c'est arriver au repas. Et donc, nous dit le Khatam Sofer, c'est de manière intentionnelle que les Chachamim ont positionné le repas après tout le seder de Maggid, après avoir fini de faire le récit complet de la sortie d'Égypte. Pourquoi ? De manière à nous habituer à accepter le joug de la royauté divine, de manière à développer notre patience dans la avoda d'Akadosh Baruch Hu. On voit en effet à propos des Bnei Ephraim, qui ont voulu, arriver à la fin des temps de manière un peu trop rapide. Comme c'est rapporté dans Tehilim, et dans Rashi sur Tehilim, il y a marqué « Bnei Ephraim noshkeru mekashet hafru beyom kerav ». C'est-à-dire, mot à mot, ils ont renversé au jour de la bataille, au jour du combat. Et qu'est-ce qui est écrit après ? Lo shamru berit Elohim, ils n'ont pas observé l'alliance de Dieu, uftorato me'anu la lechet, et dans sa Torah, ils ont refusé d'aller. C'est-à-dire que l'impatience amène à une chose terrible, qui s'appelle finalement la rébellion contre Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on répond au Racha, qui n'en peut plus de ce récit de la Haggadah et qui veut uniquement arriver au repas pour assouvir sa faim et ses désirs de bonne chère, on lui dit finalement, si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été délivré. Pourquoi ? Parce que tu aurais fait comme Ebene Ephraim, tu aurais voulu sortir avant l'heure, et donc finalement, de ton comportement aurait résulté la rébellion contre Kadosh Baruch Hu. Donc tu n'aurais pas été partie prenante de la sortie d'Égypte à cause de cette impatience. Et c'est peut-être, nous dit le Khatam Sofer, toujours dans la même dracha, l'intention de nos sages lorsqu'ils nous disent une chose très importante, Beshaach et Chacham Yoshev Vedoresh Veham Shomim, que lorsque le Chacham est assis à donc disserter sur la Torah et que le peuple écoute, Hakadosh Baruch Hu Mochel Avonoteem Shel Israël, Hakadosh Baruch Hu pardonne les fautes d'Israël. Donc c'est un midrash qui se trouve donc dans le midrash Shocher Tov sur Michelé au chapitre 10. On sait que le terme de yeshiva, on voit que ici le chacham est yoshev. On sait que le terme de yeshiva signifie attente également, comme on voit dans Rashi sur Vaikra. Et lorsque le chacham en fait est assis à expliquer avec beaucoup de subtilité parfois, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de connaissances, un sujet auquel peut-être le peuple ne comprend rien. Mais ils entendent simplement les paroles du Chacham. Et qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent que le rabbin finisse de parler. Mais malgré tout, ils sont patients, ils restent silencieux, ils respectent la Torah. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font ? Cet exercice n'est pas vain. Les gens diraient, finalement, ils écoutent un discours qui n'a aucun sens pour eux, c'est une pure perte de temps. Mais le Khatam Sofer nous dit non. Même si tu es assis et que tu écoutes une dracha, tu écoutes un shiur auquel tu ne comprends rien, ça nous est tous arrivé, et ça nous arrive tous assez souvent, de ne pas arriver à saisir la profondeur des paroles qui nous sont offertes par certains rabbanim. Alors, quel est notre exercice à ce moment-là ? Mitragelim bekabalat ol. On s'habitue à accepter le joug d'Akadosh Baruch Hu, et donc pour cette raison, par cette patience, par cette savlanout, Akadosh Baruch Hu nous efface nos fautes. Donc si au milieu du seder, vous trouvez le temps un petit peu long, vous trouvez que tel ou tel convive, pour ceux qui auront la chance de pouvoir faire le seder à plusieurs, que tel ou tel convive commence un petit peu à s'allonger sur son commentaire et qu'on aimerait bien passer à autre chose, alors pensez à ce commentaire du Khatam Sofer et pensez que la savlanout, la patience que vous allez développer est la source de tous les pardons de la part d'Akadosh Baruch Hu et que c'est un exercice spirituel pour apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu. Il y a un minhag dans certaines communautés qui consiste à manger des œufs pendant la seouda du seder. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi manger des œufs à la seouda du seder, alors qu'en vérité c'est un signe d'avelout, comme on voit dans le Shulchan Aruch Yoredea, au Siman Shin Aïdchet Saïftet. Qu'est-ce que ça vient faire ici, le soir du seder? Et le Khatam Sofer, à nouveau, rapporte le fait que peut-être cela est hérité du minhag qu'avaient nos pères déjà en Égypte. Pourquoi? Car chez les grands d'Israël, le premier jour de Pessah était pour eux un jour de deuil. On parle bien sûr des Zkenim, on parle de Aaron, on parle du Shevet Lévi. Un jour de deuil comme aujourd'hui le jour de Tisha B'Av. Comment cela? Car en vérité, le 15 Nissan est le jour où a été décrétée la galoute d'Égypte lors du Brit Ben Abetarim. Et comme on voit dans le Passouk, qu'il y a eu Emma Hashecha Gdola, qui a eu une grande obscurité, qui est descendue sur le monde. On apprend également que c'est le jour du 15 Nissan que Sarah a été prise dans la maison de Pharaon. Ça, c'est rapporté dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. On sait aussi que le 15 Nissan est le jour où Yaakov s'est tenu devant Pharaon lorsqu'il est descendu en Égypte. Et donc c'est à partir de ce jour-là qu'a commencé donc la période de l'asservissement en Égypte pendant 86 ans. C'est également le jour où Akadosh Baruch Hu a envoyé à travers Pharaon un durcissement de l'asservissement. Puisque Moshe a vu Akadosh Baruch Hu dans le Séné, donc dans le buisson ardent, à Rosh Chodesh Nissan, et il est arrivé le temps qu'il arrive donc chez Pharaon, et que les tsarot soient encore redoublés, tout ça a été le 15 Nissan. Simplement aujourd'hui, ce jour du 15 Nissan est un jour de Géoula, il a été transformé en joie, en allégresse, et d'après le Khatam Sofer, peut-être que ce minhag de la consommation d'œufs le soir du Seder est un souvenir, une forme de commémoration masquée de ce deuil qui existait à l'époque. On rapporte une autre explication intéressante à ce minhag au nom du Gaon Rabbi Yosef Potsonovski, Hachem Ikom Damo, et qui dit qu'en fait, l'œuf a une particularité, c'est que plus on le cuit, plus il devient dur. Donc on sait très bien que si on sort l'œuf trop tôt de l'eau bouillante, on va avoir un œuf à la coque ou un œuf mollet. Si on veut un œuf dur, il faut le laisser cuire le temps qu'il faut. Et il nous dit en fait que l'œuf est le symbole de ce qu'on voit dans la Torah. « Ken irbe vechen ifrot » Plus on asservissait les Bnei Israël, plus il grandissait, plus le peuple grandissait, plus il se développait. Et donc finalement, cet œuf est le symbole de la résilience ou de l'entêtement. On sait que on a des auteurs qui ont utilisé, on voit dans la Torah à plusieurs reprises, que le peuple d'Israël est qualifié de Am Kesher Oref, un peuple à la nuque raide. Et cela est très souvent considéré comme étant quelque chose de mauvais, de négatif. On dénigre la grandeur du Ham Israël à travers cette Mida, mais nous voyons dans d'autres Sfarim, on a eu l'occasion d'étudier il y a quelques mois une dracha du Admour de Piasetzna qui revenait sur ce Inyan de Kashyut Oref, de Nukred, et il nous expliquait que finalement la Nukred est également ce qui permet aux Juifs de surmonter toutes les difficultés d'accomplissement de la Torah et de rester accrochés à la Torah. On voit que nous sommes dans une époque difficile, que Pessah va se passer dans des conditions très différentes des années habituelles, et malgré tout, les réseaux sont pleins de questions sur comment accomplir la mitzvah, comment faire les choses dans l'ordre, comment kachériser, comment faire pour les kelim, etc., etc. Vous avez tous entendu toutes ces questions, et donc le Admour de Piasetzna nous dit cette kashyut oref, c'est la capacité du juif, au-delà de la raison, au-delà de ce qui pourrait sembler normal de faire, de toujours rechercher le meilleur accomplissement possible des mitzvot. Et donc c'est également quelque chose qu'on peut voir à travers cet œuf dur. Je voudrais peut-être finir avec une histoire qui est racontée par Rabbi Avraham David Horowitz, qui était le Rav de Strasbourg, puis ensuite qui a été Rav à la Haïda Haredit de Yerushalayim, et qui était en fait le petit-fils, donc du côté maternel, de l'auteur du livre qui s'appelle Pitra Zuta. C'est un commentaire sur le Chasse. Et cet auteur du Pitra Zuta était lui-même un élève direct de Rabbi Chaim de Tzantz, le grand Divrei Chaim. Et il nous rapporte dans son introduction, donc le Rav Avram David Horowitz, rapporte dans l'introduction au Sefer de son grand-père une histoire avec justement le Divrei Chaim de Tzantz, dont on a déjà parlé. Il y avait un auteur à l'époque du Divrei Chaim qui s'appelait, qu'on appelait le Gaon de Rava, qui avait écrit un livre qui a pour titre Derech HaMeler, qui est un commentaire sur le Rambam. Et donc ce Gaon de Rava a décidé de rendre visite au Divrei Chaim à Tzantz. Lorsqu'il est arrivé à Tzantz, après avoir fait un long voyage, il a trouvé le Rabbi à sa table, en train de faire un tish avec ses chassidim. Il remarque effectivement que l'habitude du Divrei Chaim était de faire un tish chaque jour, ce qui semble absolument extraordinaire. Et lorsque le Divrei Chaim a vu le Gaon de Rava, il lui a dit « Rav Berichel de Lublin », donc il l'a appelé par son petit nom, comme il était connu probablement lorsqu'il était jeune, il lui a dit « Rav Berichel de Lublin, tu as peut-être probablement imaginé qu'à Tzantz, quand tu allais arriver, tu allais nous trouver à la yeshiva en train de nous casser la tête sur un passage difficile dans le Mishneh Lameler, donc un autre commentaire du Rambam. Et voilà que tu arrives et on est occupé à manger de la viande grillée avec une bonne sauce. Et donc tu dois être probablement extrêmement déçu de trouver le Rebbe avec ses chassidim occupé à une telle activité. » Alors le Gaon de Rava ne s'est pas démonté. Et il a répondu sans hésiter au Divrei Chaim en lui disant « Et si j'avais eu la bonne chance de rencontrer le Kohen Gadol au Beth Amikdash, dans quelle situation l'aurais-je trouvé? Est-ce que je n'aurais pas trouvé également assis avec les Kohanim en train de manger la viande grillée des Korbanot avec une sauce qui devait être tout aussi délicieuse ?» Alors le Divrei Chaim, évidemment, a été extrêmement satisfait par cette réponse. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a été comparé au Kohen Gadol et que c'était un homme d'une envergure extraordinaire, ou peut-être tout simplement parce que ce que laissait comprendre ici le Gaon de Rava, c'est qu'il avait tout à fait saisi le sens spirituel du tish du Rebbe, et que lorsque le Rebbe est à son tish en train de manger de la viande avec ses chassidim, il est comparable au Kohen Gadol dans le Beth Amikdash qui mange un korban. Donc nous revenons à la thématique première avec laquelle on a commencé l'étude de Shulchan Orer. Et donc nous souhaitons tous pouvoir, non seulement au moment de Shulchan Orer, le soir du Seder, mais à chacun de nos repas jusqu'à 120 ans, pouvoir toujours avoir un Shulchan qui soit l'Ifne Hashem.